Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'un nez. Cela vous intrigue, n'est-ce pas? Eh bien, il s'agit d'Alexandra Bachand, artiste parfumeur. Alexandra Bachand est une artiste comme il y en a peu. Son art, c'est le parfum, un art majeur, affirme-t-elle, un art de l'invisible. Elle rêve en odeur, crée avec patience, reçoit dans son atelier avec élégance. Les propositions d'Alexandra Bachand sont une poésie olfactive. Bonjour Alexandra Bachand.
Bonjour Marjorie.
Bienvenue d'abord à Vivement les femmes.
Ça me fait plaisir. Merci pour cette introduction, cette belle invitation aujourd'hui à parler du parfum.
Ah oui, tout à fait. En plus, c'est très rare. Hein. Ma recherchiste m'a dit, as-tu déjà rencontré un nez? J'ai dit non, à part du mien. Alors, on a fait une petite blague, mais c'était pour introduire très bien de façon humoristique cette émission. Puis, Alexandra, ce que j'aimerais savoir, vos racines, est-ce que ça explique tout en partie votre carrière d'artiste parfumeur? Parce qu'on parle bien d'artiste parfumeur. Puis, j'aimerais savoir dans quel terreau vous avez grandi pour avoir choisi cette route.
Oui. Alors, j'ai grandi, en fait, dans les cantons de l'Est. Mm-hmm. J'ai grandi en campagne. Mais particulièrement, c'est... Mon enfance a été bercée par une maison qui était assez particulière parce que j'ai grandi dans un hôtel. Mes parents ont fait l'acquisition avec la famille d'une ancienne école secondaire pour jeunes filles qui venaient même de l'Angleterre. Et puis, c'était une école, on parle du 19e siècle.
Oui, oui.
Et puis, au moment où mon père en a fait l'acquisition, l'école avait été transférée, là, le département avec l'Université Bishop, le Collège Champlain, tout ça. Donc, et là, nous, on s'est retrouvés, la famille a aménagé dans ce bâtiment-là qui était de style Tudor, oui. Avec plein de pavillons, avec les anciennes salles de classe. Avec moi, je me rappelle tout petit du laboratoire de chimie qui était encore tout intact.
OK, ouais.
Donc, c'était un endroit magique.
Ouais.
On parle c'était des boiseries. Alors, c'était un endroit où les odeurs anciennes, mais toutes sortes d'odeurs qu'on n'aurait pas l'habitude de sentir quand on est petit,
ouais.
Avec laquelle j'ai été en contact. Et puis, il y avait aussi mes grands-parents qui se sont joints à ce projet-là, mon grand-père qui était paysagiste, ma grand-mère qui s'était installée une serre à même l'hôtel. Donc, il y avait les fleurs, les plantes, les boiseries, les fleurs coupées.
Oui.
Donc, j'ai l'impression que ce lieu-là a vraiment forgé ma bibliothèque olfactive, si on veut, ma bibliothèque d'odeurs. On a tout ça, en fait, hein, dès qu'on fait un voyage, on les mémorise.
Bien sûr.
Et puis, surtout quand on est petit, toutes ces odeurs-là deviennent assez importantes parce que c'est celles, surtout plus tard, qui nous reviennent.
Exactement. Puis ces odeurs créent des émotions aussi.
Oui, et puis dès que ça touche l'enfance, nécessairement, ça devient avec une charge émotive qui est d'autant plus grande. Et puis, ma mère aussi peignait. Donc, c'est elle qui avait peint tous les tableaux qui se retrouvaient dans les chambres, dans cet hôtel-là.
Okay.
Donc, il y avait ça aussi. Il y avait les arts, il y avait la peinture, l'odeur de la peinture, même petite. Parce que j'ai vu ma mère peindre ces tableaux-là. Puis le lieu. Donc, il y avait des chevaux. Mon père organisait, si on veut, le dimanche, il y avait des... des sleigh rides qu'on appelait.
Oui, oui.
Puis c'était dans un petit village où il y avait beaucoup de vergers, donc il y avait l'odeur des fleurs de pommier au printemps. Puis donc effectivement, je dirais le terreau a été fertile.
En odeur.
Oui, en odeur au niveau de mon enfance.
Oui, oui. Puis il y a des choses qu'on va dévoiler aussi un peu plus loin dans l'émission, là, lorsque vous avez parlé que votre mère faisait de la peinture et tout. Mais
Oui.
je vais laisser ça, les auditeurs et auditrices, découvrir un petit peu plus loin, parce que je fais déjà un lien. Et puis, est-ce que vous êtes artiste parfumeur? Est-ce que vous, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous voyez artiste parfumeur ou chimiste aussi? Est-ce que vous êtes chimiste aussi?
Alors, je ne me vois pas du tout comme une chimiste,
D'accord,
non.
ouais.
Généralement, c'est un peu ça, c'est que la distinction, pourquoi je dis artiste parfumeur, c'est que mon parcours est peut-être atypique par rapport à la parfumerie traditionnelle,
Oui.
en ce sens que c'est ça, j'ai pas été formée dans le cursus scientifique,
Scientifique,
chimie,
ouais.
tout ça. Mais je travaille pas dans un labo non plus aujourd'hui. Je
Oui.
travaille dans mon atelier
C'est ça,
à la
oui.
campagne. J'ai mon petit labo de campagne, mais je veux dire, c'est quand même pas tout à fait le même univers. Puis mon approche de la parfumerie est essentiellement artistique.
Tout à fait, oui.
Donc, je trouvais intéressant de le distinguer dans la façon de le nommer.
Oui. Puis, on parle de formation. Vous avez été formé où?
Alors, ça, c'est assez compliqué quand même au Québec si on choisit cette voie-là d'aller en parfumerie parce que nécessairement, il n'y a pas des tonnes d'écoles pour apprendre ce métier-là. Il faut se déplacer puis se rendre en Europe ou aller en France,
Oui.
soit à Versailles ou proche de ou à Grasse. Donc, ce n'est pas les chemins vraiment que j'ai pris parce que au moment où dans mon, je dirais, mon processus créatif, au moment où j'ai décidé d'opter pour le parfum comme médium artistique, j'avais débuté ma famille. Donc,
OK.
j'avais mon premier enfant qui était bébé à ce moment-là. Donc, au moment où je me suis commise vraiment au parfum, je me serais pas vue partir avec un bébé
En effet, oui.
dans cette aventure-là, là-bas. Donc, j'ai plutôt opté pour une formule où moi, j'aimais bien l'apprentissage du maître à l'élève, parce que j'ai été formée en beaux-arts, j'ai fait l'université en beaux-arts, donc je savais que la carrière que je souhaitais faire était une voie plutôt artistique. Et puis, la tradition en art, c'est quand même d'apprendre du maître à l'élève. Ben, c'est toujours bien de cette façon-là. Il y a une transmission qui se fait qui est plus personnelle. Puis, j'ai approché de façon individuelle des gens, donc des parfumeurs qui ont
Oui.
accepté de me prendre sous leurs ailes.
OK.
Alors, j'ai fait ça sur plusieurs années. Donc, il y a eu, je dirais, c'est l'ensemble, ma formation, ça comporte, c'est l'ensemble de gens, de relations, de voyages, de livres,
Le livre.
de recherches par moi-même,
Oui.
de c'est un peu c'est une longue voie
C'est ça,
finalement,
oui.
mais ça
L'expérience
oui
aussi,
c'est
oui.
ça, mais ça je crois que ça ressemble au cheminement généralement que tout artiste vit, peu importe le médium.
Oui.
Si on est peintre, bon oui on peut faire une école ou pas, puis mais après c'est en peignant qu'on apprend. Bon, ben c'est un peu la même chose. Bon, c'est sûr que la parfumerie, c'est assez complexe. Donc, avec les années, il y a aussi un apprentissage qui fait en sorte qu'à un moment donné, j'arrivais à voir mes limitations.
Oui.
Et là, OK, là, je suis rendue à ce. J'étais capable de voir, OK, là, je suis rendue à tel niveau. OK, j'ai telle lacune. Alors, je sais exactement ce qui me manque. Bon, je vais faire un voyage
Pour aller
pour
chercher
aller chercher telle formation supplémentaire, tel cours plutôt en chimie, parce que oui, je suis
Je
allée chercher des
comprends,
cours en
ouais.
chimie, mais j'ai pas fait un cursus spécifique vraiment à ce niveau-là. C'est vraiment de façon ciblée,
Ciblé
bon,
selon
la
les.
chimie du parfum, mais pas au départ, parce qu'au départ, quand on commence à apprendre ce métier-là, il y a tant de choses
Oui.
à découvrir, à comprendre. On n'est pas encore rendu à ce niveau-là plus spécifique, je dirais.
D'accord. Je poursuis ma discussion avec Alexandra Bachand, artiste parfumeur. Alexandra, vous êtes combien au Québec d'artistes parfumeurs?
Alors, c'est une excellente question. Je ne connais pas, pour être franche avec vous, mm-hmm. le nombre exact de personnes qui font ce métier-là. Mm-hmm. Je crois que je ne pourrais pas dire le nombre. Nous sommes peu à faire ce métier-là,
oui.
Mais après, je ne les connais pas nécessairement pour autant parce mm-hmm. que c'est vrai que moi, dans mon atelier, je suis assez isolée dans mon travail oui. et il n'y a pas de... On fait pas partie d'un regroupement
exactement,
ou de choses comme ça, donc c'est tellement de toute façon atypique comme profession.
C'est ça, c'est très rare.
On ne se connaît pas nécessairement... de façon personnelle. Donc, après, je pourrais vous dire ce que je vois passer sur les réseaux sociaux. T'sais, au pays, au Canada, quand même, ça se compte peut-être sur deux mains. Puis encore là, je ne suis pas certaine, peut-être que... Donc, c'est difficile pour moi de savoir...
Est-ce que, parce que bon, dans la recherche que nous avons réalisée pour cette émission, ce que je constate, hein, dans ce que vous faites, c'est quand même une niche encore plus spécialisée parce qu'il y a aussi des parfumeurs qui font des fragrances pour, comment je vais dire, pour les personnes. Vous êtes beaucoup dans l'art, du côté artistique de la parfumerie.
Alors, je dirais que dès qu'on... Donc, pour reprendre, en fait, pour bien répondre à votre question, je dirais que ce qui est plutôt rare, c'est d'être parfumeur, un peu artisan, si on veut, être tout à fait indépendant, c'est-à-dire d'avoir son propre laboratoire et donc de formuler, fabriquer soi-même l'ensemble de ses créations. Mm-hmm. Alors, après, moi, de décider de faire... de pousser plus loin, puis d'aller exposer aussi les parfums, d'avoir une démarche qui est purement artistique. Mm-hmm. C'est vrai que là, on tombe dans un volet qui est encore plus rare, mais je dirais que déjà, juste en soi de formuler, fabriquer, d'avoir son propre labo, ça reste ça le défi. C'est là-dessus qu'on nous sommes très peu nombreux, parce que c'est un travail quand même qui est assez exigeant, parce que dans la cosmétique, si on veut, l'industrie, dans laquelle moi, je ne fais pas partie, hein, c'est vraiment, je suis à l'extérieur de ça, parce que on parle de... Il y a des maisons de composition, après, il y a les marques, mm-hmm. après, il y a les briefs, il y a tout ça, tu sais, c'est toute une logistique. Moi, j'ai pas toute cette... ces complications-là, si on veut, dans ce que c'est une personne dans son atelier... Et puis, ça va au gré du vent. C'est-à-dire que moi, c'est la lenteur de l'atelier et je fais absolument tout ce que je veux. Donc, c'est la beauté d'être complètement autonome, indépendant dans son travail. C'est de pouvoir, d'avoir soi-même les idées de ce qu'on a envie de faire, puis de le faire. Mm-hmm. Puis, ce qui est aussi peut-être atypique dans mon atelier, c'est que je m'amuse à faire l'ensemble des étapes. C'est-à-dire, j'ai envie d'avoir le moins de fournisseurs possible. Mm-hmm. Et puis ça, je l'ai aussi beaucoup... j'ai trouvé ça chouette. J'ai réalisé à quel point c'était une force au moment où la COVID est arrivée. Puis on s'est mis à... Tu sais, il y avait le manque de main-d'œuvre, manque de matières premières, manque de... Et puis, parce que je faisais tout moi-même à l'atelier, du design, à la confection des boîtiers, à la fabrication et tout ça. Mais j'avais tout. j'étais capable de poursuivre mon travail, puis...
Donc, pas beaucoup d'impact,
pas
finalement.
Pas beaucoup d'impact, parce que, tu sais, j'aime faire à la main tout ce travail-là.
Oui.
Et puis, je suis pas en distribution non plus, c'est un choix.
C'est ça, ouais.
J'ai envie que ça reste vraiment un peu comme des œuvres artistiques.
Oui.
Donc, tu sais, c'est fait à l'atelier, c'est...
Exactement. Alexandra, j'ai hâte de vous poser cette question. C'est que comment on crée un parfum? Tu sais, l'étape de je ne sais pas moi, de l'idée, puis à l'odeur, dans la bouteille. Quelles sont les étapes?
Je dirais que c'est semblable à, en tout cas pour moi, c'est semblable à la création d'une collection si j'étais peintre.
Oui.
Dans le sens que on est animé par... par des choses qui nous influencent,
mm-hmm.
par des émotions, une narration, des évocations qu'on a envie de transmettre par notre médium. Donc, je dirais, ces mêmes émotions-là ou ces mêmes idées créatives-là, elles pourraient se transmettre en tableau,
okay.
Mais là, elles se transmettent en parfum. Donc, des fois, c'est des impressions d'un moment. Moi, je suis véritablement passionnée de botanique.
Oui.
Ça, c'est une de mes passions dans la vie. Donc, j'ai un jardin, puis mon jardin, je dois dire, il m'inspire beaucoup de choses.
Oui.
Donc, je m'inspire beaucoup l'été du jardin, de ce qui se passe. Il y a une espèce de vie dans un jardin, ne serait-ce que par... les insectes qui le fréquentent, parce que moi, dans mon jardin, j'ai énormément de colibris, de
Ah oui,
papillons.
ça fait, oui.
Oui, il a été certifié justement par le jardin botanique, là,
Oui.
comme étant oasis nourricier pour les insectes pollinisateurs, les oiseaux, les colibris, les papillons monarques.
OK.
Et puis, quand on s'assoit, on se dépose au jardin, on voit la beauté de cette nature-là. Avec tous ces parfums odorants, parce que mon jardin est axé sur des vivaces qui sont parfumées ou des plantes à parfum. Puis ça donne tellement d'idées, pas nécessairement de les retranscrire au premier degré, mais c'est l'idée de s'inspirer de la beauté en général,
Oui.
une espèce de beauté qui est gratuite, qui est offerte pour
Tout à
tous,
fait.
qui est juste extérieure. Donc, je m'inspire beaucoup de mon jardin, mais de ces petits moments-là, puis ça me donne des idées après de création de parfums. Puis après, ben c'est d'aller un peu plus loin sur inventer, travailler. Si c'est par exemple telle fleur, on va dire la rose, ben c'est comment je peux transmettre la rose, mais lui la faceter différemment, lui donner une histoire. Et puis là, je vais plonger dans des souvenirs de voyage ou dans juste des moments de ma vie. Et là, je vais me servir de ça pour aller travailler l'accord de ce parfum-là.
Ouais.
Donc, des fois, c'est purement des fleurs que je vais sentir à l'aube ou des fois, il y a des fleurs qui s'expriment plutôt au crépuscule. Et puis, après, ça me donne des idées. Puis, je vais partir de ces idées-là. Puis, pour répondre plus spécifiquement à la question, ben je vais l'écrire... Je vais écrire sous forme de petits poèmes, de paragraphes,
OK.
un peu l'impression que j'avais de cette petite histoire-là, narrative, si on veut, sur laquelle comme un peu mon point de départ. Donc, à partir des mots qui sont écrits, et puis ça, sur les fiches des parfums, je le laisse toujours parce que je trouve que c'est intéressant de comprendre l'intention. Et puis là, suite à ça, ben nécessairement, je m'en fais une idée dans ma tête.
Okay.
Il y a une idée, il y a une impression d'un parfum qui évoque ce moment-là. Et puis, donc, c'est important que je le sente bien dans mon esprit pour être capable de le réaliser. Parce que tout au long du processus qui peut prendre 1 an, 2 ans, des
ah
fois...
Ah oui, autant!
Oh, oui,
Finalement, comme vous l'avez dit précédemment, c'est-à-dire, c'est comme écrire un manuscrit, on peut... avoir
Oui.
ça dans un tiroir pendant
Tout à fait.
Quelques mois. Alors,
Ah,
c'est le même procédé, finalement.
Je travaille, j'ai un jasmin que je n'ai pas été capable de faire éclore encore. Ça fait des années que c'est sur ma tablette.
Oui.
Parce que c'est très complexe. Les fleurs blanches peuvent être assez... elles sont tellement belles complexes en soi. Elles ont tellement de facettes que c'est... Ouais, il y a tout un travail. Puis, il y a aussi que j'apprends au fur et à mesure, dans le sens que on est des êtres qui sont tout constamment en apprentissage.
Tout à fait.
Et puis, c'est la beauté d'un art, c'est d'avoir jamais l'impression de complètement le maîtriser. Et c'est ce qui me pousse à poursuivre ce cheminement-là, c'est que j'ai toujours l'impression que je peux faire mieux ou qu'il y a toujours une espèce de la quête du Graal, du parfum que j'essaie de... Alors, ça me passionne aussi de... J'aime que ce parfum-là, par exemple, soit pas terminé. Ça me plaît bien parce que j'ai toujours en tête l'idée de le poursuivre. Puis après ça, il y en a d'autres qui vont naître. Puis bon, ça va, ça vient.
Ouais.
Et puis après, ben, c'est la quête de avec quelles notes, comment bâtir les accords, comment je vais réussir concrètement avec les matières premières, avec mon orgue à parfum, ma collection. Les parfums, on a comme une collection qui est personnelle parce que ça veut dire que c'est les essences qu'on choisit d'utiliser, les molécules avec lesquelles on choisit de travailler. Donc, mon orgue est différent d'un autre parfumeur parce que c'est selon mes préférences.
Oui.
Donc, c'est des centaines de matières premières comme ça que je garde au labo. Puis après, c'est ça. Après, c'est tout un affinage de quantité, de dosage qui vont faire qu'il y a cette symphonie-là de l'invisible là, qui va finir par se mettre en place. Puis il y a une espèce de recherche d'un équilibre.
vous êtes passionné, ça c'est sûr, et puis vous nous donnez envie aussi de connaître encore mieux le métier, mais je suis capable de visualiser déjà votre atelier. On va en parler de votre atelier. Alexandra, votre atelier se nomme La Grange du Parfumeur. Donc, comment qu'il est arrivé dans votre vie? Comment vous avez construit cet atelier? Surtout que vous avez parlé de votre jardin qui est adjacent.
Oui, le jardin borde complètement l'atelier. Alors, c'est dès l'université, je me rappelle, avec d'autres étudiants, on se parlait de ça, le rêve d'artiste d'avoir notre grange pour pouvoir créer. Je pense que c'est une idée quand on est à la campagne qui est souvent courante, tu sais, de se dire on veut un grand espace en extérieur qui permet de rentrer, de sortir aisément puis de travailler pas des grands formats. Mais bref, pour le parfum, j'ai trouvé une grange effectivement qui est sur un terrain avec une maison parce que ça prend quand même la maison. Donc, c'est chouette parce que se rendre à l'atelier, c'est quelques pas. Oui. Et puis, avec le temps, le jardin s'est agrandi. Cette année, je l'ai justement doublé par rapport à l'année dernière. Mais j'y travaille, c'est un peu comme la parfumerie. L'horticulture, c'est un travail dans la lenteur, surtout dans la patience. C'est très semblable à la parfumerie pour certaines idéologies. On a les mains dans la terre, puis on laisse le temps aux plantes de grandir et c'est un bonheur de les voir fleurir d'année en année. Et puis la parfumerie, c'est un peu ça. Donc, à l'atelier, il y a ces idées-là, des fois, ces impressions de couleur, ces impressions de nature, parce qu'avec les gens, je leur propose de sortir au jardin, de m'y accompagner l'été. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, en fait. L'été, j'ai envie qu'on sorte de l'atelier. C'est comme quelque chose d'important pour moi. C'est un hommage aussi à mes grands-parents d'être au jardin. Et puis, de toute façon, ici au Québec, l'été, on a envie
de sortir.
On a envie d'être à l'extérieur. Donc, on va en extérieur dans ce jardin-là. On peut sentir des plantes. On peut juste fermer les yeux puis se concentrer sur l'odorat. C'est ce qui m'importe. C'est de se connecter avec ce sens-là qui est extraordinaire, qui nous fait voyager, qui peux nous faire
une expérience olfactive. Je me souviens que j'avais été au jardin botanique.
Ouais.
Il y avait un petit jardin, justement, qu'on fait pour les personnes non-voyantes.
Oui, c'est extraordinaire.
C'est ça, oui.
Donc, je suis allée aussi.
Voilà, on était dans les odeurs, mais c'est toute une autre expérience.
Oui, et c'est une expérience qui est importante. Moi, je dis, quand on vient à l'atelier, je dis toujours... Il faut faire ça les yeux fermés.
Oui.
Je veux qu'on oublie le visuel, la stimulation, les choses. Je veux qu'on se connecte vraiment avec notre odorat. Mm-hmm. Puis c'est de cette façon-là qu'on arrive à s'émouvoir puis à vraiment ressentir toutes sortes d'histoires,
ben oui.
De la richesse que peut nous apporter ce sens-là. Et puis...
Chaque odeur doit... est différente pour chaque personne ou fait venir des sentiments.
Oui, alors ça représente pour chaque personne, c'est personnel notre façon de réagir à un parfum, à une odeur. On a tous notre propre façon de. Et c'est ce qui est beau aussi, c'est cette différence-là. On a tous une façon de sentir, de percevoir. Des fois, il y a des gens qui vont me qualifier des odeurs en me disant ah là, je trouve que c'est très, très fort, c'est puissant.
Mm-hmm.
Et là, il y a une personne juste à côté qui me dit ah, mais moi, je trouve que c'est très, très doux.
Alors
là, je me dis bon, mais tout est. Ben, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est faux, c'est dans la perception.
Ouais.
Mais après, ce que j'aime, par exemple, comme dans les expositions, parce que là, j'ai une exposition cet été, je présente une œuvre qui est. Inspiré de l'œuvre de Schubert.
Oui, on va en parler.
Oui, parfait. Alors, je ne vais pas dévoiler tout
voilà,
de suite.
Voilà, tout à fait. C'est d'ailleurs le lien que je voulais faire avec l'amorce. OK.
Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore.
Au micro avec Alexandra Bachand, artiste parfumeur. Alexandra, alors, dans les parfums, vous avez la note jazz, première violette, murmuration, valse bleue. Alors, ce sont des noms de vos parfums. Maintenant, j'aimerais savoir comment on nomme un parfum, comment que ça arrive et puis on lui trouve un nom.
Ben, c'est assez facile parce que le nom représente l'idée de départ, l'évocation, la petite histoire que j'ai envie de raconter.
Mm-hmm.
Donc, c'est sûr qu'il y a des choses dans ces idées-là qui sont je dirais, le reflet de moments qui me sont très personnels.
Oui.
Et puis, que je ne vais pas nécessairement divulguer comme ça, mais... Par exemple, si on dit la note jazz,
oui.
Mais ça évoque le moment où j'ai rencontré mon conjoint, où j'ai rencontré mon mari,
oh,
travaillé
super.
Au festival de jazz. Et puis, mais après, j'amène cette idée-là un peu ailleurs avec le parfum, mais ça évoque, c'est sûr, beaucoup d'amour. Ça,
oui.
Ça évoque un moment où on sent qu'on a rencontré l'amour de sa vie, puis que... on va se déployer les ailes.
Oui, oui.
Donc, c'était un moment où c'était en soirée, un spectacle, tout ça. Donc, il y avait dans ce parfum-là l'idée de reconstruire ce grand festival-là, où il y a la rencontre de la musique, mais c'est une rencontre aussi des gens.
Oui.
Hein, parce que c'est la musique rassemble les gens.
Mm-hmm.
Donc, c'est un moment de connexion qui est forte.
Oui.
Et puis... Donc, c'est la note jazz.
Puis ça venait, donc...
Le nom est facile à trouver parce que c'est
le nom dit ce que c'est.
Exactement. Donc, ouais. Valse bleue, ça se trouve être la brise du vent qui vient du lac.
Mm-hmm.
Nous, la grange, elle est située en hauteur, si on veut. On a la vue sur le lac Memphremagog, un peu en contrebas. Et puis... Donc, on est dans les hauteurs parce qu'on est entre le mont Offord et le mont Halsed.
Mm-hmm.
Il y a toujours vraiment des grands vents.
Oui,
là.
Oui.
Et puis, Valse bleue, ben, c'est ce tourbillon-là, c'est les vents qui dansent.
Mm-hmm.
Et puis, le matin, ben, on a souvent le brouillard, cette brume-là qui arrive du lac.
Oui.
Donc, c'était cette brise-là qui est chargée. D'odeur, surtout l'été.
Mm-hmm.
Donc, on sent le sol, on sent
ouais.
du végétal, beaucoup de fraîcheur.
Ah oui. Puis le nom, est-ce qu'il vient au début ou à la fin du processus?
Pour moi, il vient au tout début.
Au tout début, okay.
Oui. Oui, oui, parce que c'est des moments, c'est des instants que je viens comme capter.
Mm-hmm.
C'est des moments forts que je trouve très inspirants. Et puis, donc, c'est ça fait partie de l'évocation de départ. Donc, j'ai ce moment-là que je trouve très fort, chargé.
Oui.
Je me dis, ça serait poétique de le transcrire en parfum. Donc, j'ai tout de suite le thème,
mm-hmm.
et j'ai le nom qui représenterait oui. cette émotion-là, cette image-là olfactive.
Ah, intéressant. Donc, Alexandra, vous êtes, alors je suis privilégiée, vous êtes le premier né que je rencontre. Donc, alors, j'aimerais ça que vous nous parlez de l'odorat, parce que je sais que vous avez dit aussi qu'il y a une façon de respirer et tout ça. Donc, j'aimerais ça, l'odorat.
Oui, c'est que, en fait, je trouve que on ne prend plus le temps de sentir, on ne prend plus le temps de respirer. Et ça, c'est un constat en général. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire, on va suggérer de façon générale si on recherche du bien-être ou de la relaxation, on va dire qu'il faut réapprendre la respiration consciente, faire de la relaxation et puis de la méditation. Et puis, on se rend compte, ou à travers le yoga, à quel point la respiration est essentielle.
Mm-hmm.
Donc, cette respiration-là qu'on oublie de faire dans notre mode de vie qui va si vite aujourd'hui,
mm-hmm.
ça veut dire que si on ne prend plus le temps de respirer, c'est-à-dire qu'on ne prend plus le temps de sentir non plus.
En effet.
Hein? Ouais. Donc, tout ça, c'est jumelé parce que ça demande une attention consciente pardon, mm-hmm. de sentir. Parce que ça demeure un sens... n'arrive pas à capter autant de stimuli, autant que la vue. La vue, on reçoit beaucoup d'informations
oui,
en même temps, puis bon, on arrive à naviguer avec ça. L'odorat, il faut se déposer.
Mm-hmm.
Il faut consciemment essayer pas de se concentrer, mais faut décider d'être présent dans le moment.
Oui.
Et sentir, c'est comme un peu ouvrir son cœur, j'ai l'impression. Mm-hmm. Parce que moi, ce que j'ai observé à l'atelier, c'est qu'à chaque fois que les gens sont arrivés de façon pressée,
oui.
en me disant, bon, là, je passais, ça fait, tu sais, je voulais passer, ça fait plusieurs fois que je voulais passer, ou là, mm-hmm. bon, c'est peut-être pas le bon moment encore aujourd'hui, je viens juste en vitesse, là.
Oui.
Puis je voulais voir qu'est-ce que... Mais déjà, je me dis, il n'y a rien à voir. On vient
exactement,
sentir.
Oui.
Donc, moi, je trouve qu'à l'atelier, on est dans l'invisible vraiment. Donc, on n'a pas besoin de regarder. Ce n'est pas important. Ce n'est pas le sens que j'ai envie de valoriser.
Oui.
Donc, et je me dis, ben là, si vous êtes pressé, je pense que ce n'est toujours pas le bon moment parce mm-hmm. qu'on ne pourra pas faire ça comme ça sur le coin de la porte.
Mm-hmm.
Et puis, prendre le temps de sentir, c'est prendre le temps de s'ouvrir à découvrir.
Oui.
C'est accepter de peut-être être déstabilisé parce qu'on va sentir de revoir des fois, parce qu'on, et souvent, ce que je remarque, c'est qu'on peut avoir des a priori sur ce qu'on aime.
Exactement.
Et ouais. Je vais entendre souvent, bon, moi, j'adore la vanille ou je déteste la vanille, mm-hmm. par exemple. Et là, c'est pas si important que ça si on aime ou si on déteste la vanille. C'est que c'est pas nécessairement ça la narration que j'ai envie de communiquer à l'atelier.
Mm-hmm.
C'est une impression de, comme je disais, de j'ai voulu capter des petits moments que
oui.
je trouvais symboliques, significatifs, que j'espère peuvent inspirer les gens.
Mm-hmm.
Donc, peu importe s'il y avait de la vanille ou pas, ou si on aime ça ou si on n'aime pas ça, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à se déposer pour sentir, pour juste comprendre ce que ça nous fait,
oui.
comment ça peut bouger notre intérieur,
mm-hmm.
est-ce que ça nous émeut, qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'on n'aime pas la vanille, est-ce que c'est parce que ça vient rechercher un souvenir?
Exactement,
et je trouve que
oui.
c'est intéressant de bousculer un peu ces idées-là,
oui.
de juste de dire que ben j'aime pas tel truc,
mm-hmm.
mais ok, mais on peut sentir ça quand même si on n'aime pas ça.
Oui.
Ça veut dire, parce que concrètement, moi, je souhaite pas que les gens viennent à l'atelier juste pour... c'est pas grave si on se trouve ou si on se trouve pas un parfum. C'est la découverte qui est intéressante.
C'est ça. Puis toute cette expérience immersive aussi,
mm-hmm.
donc on baigne dans les odeurs. Puis j'imaginais lorsque vous demandez de fermer les yeux, donc
oui.
En fermant les yeux, immédiatement, on se connecte aussi à notre respiration. Hein, si,
Oui.
en tout cas, je pense que oui. Ce qui permet aussi de vivre cette expérience-là.
Oui, et j'ai remarqué que quand on arrivait à faire ça, d'y aller vraiment, de faire confiance, puis d'y aller un peu les yeux fermés, puis de se connecter un peu différemment avec nos sens
Oui.
habituels, eh bien, ça fait émerger vraiment des choses insoupçonnées. Et c'est là où je trouve que ça devient intéressant.
Intéressant.
Oui.
Alexandra, vraiment votre description là de votre métier d'artiste parfumeur est excellente. Moi, ça me repose beaucoup de vous entendre.
Merci.
Alors, j'aimerais aussi poser la question, est-ce qu'il y a eu des écueils dans ce parcours pour devenir artiste parfumeur? Est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez eues à vaincre?
Alors, tout à fait, je veux dire, c'est la liste est longue, mais
oui.
juste en soi de choisir de vivre de son art, ça peut paraître souvent assez utopique.
Oui.
Je me rappelle déjà d'avoir choisi les arts comme orientation professionnelle. Mes parents m'ont appuyé, mais je veux dire, de façon générale, on peut se faire juger aisément dans cette profession-là en se disant, mais comment tu vas faire pour vraiment arriver dans tout ça? Et c'est vrai que ça reste difficile de croire en sa création
Oui.
et d'arriver à en faire la diffusion, de se sentir épaulé dans ce qu'on fait. Je pense qu'à cet égard-là, j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui a fait la différence pour moi parce que il a toujours été très solidaire dans mon choix de vie.
Oui.
Et puis, il me soutient beaucoup là-dedans. Après, de monter une maison de parfum, de l'édifier, si on veut, d'arriver à rendre ça crédible, si je peux le nommer ça comme ça, ça reste difficile.
Oui.
Je veux dire, c'est, ça reste un projet difficile à tenir.
Puis ça reste aussi un métier peu connu aussi, hein,
oui, c'est
du
ça.
Grand public. Oui.
Et ma façon de le présenter, tout ça est un peu atypique et j'ai envie de m'y tenir, en fait, dans le sens que la façon que j'aborde les visites dans mon atelier, c'est pas conventionnel sur la façon de sentir ou découvrir les parfums dans les grandes surfaces. Mais c'est correct aussi, dans le sens que moi, c'est le choix que je fais parce que je le fais de façon authentique avec qui je suis et je le fais dans une vision artistique et c'est ça qui me nourrit. Mais ça reste difficile, mais j'ai la chance quand même, dans la région où je demeure, je sens que je suis bien appuyée.
Oui.
Dans tout ça, puis mais c'est sûr que tout le parcours de formation a été complexe, la façon d'arriver à monter la logistique de la fabrication, tout ça sur place, ça a été quand même quelque chose de difficile, donc ça a été, un chemin hors des sentiers battus.
Tout à fait.
Et puis, il y a des moments, je ne vous cache pas, que c'est des hauts et des bas.
Oui.
Je suis quelqu'un aussi d'hypersensible. Donc, tout ça m'affecte, me touche si j'ai l'impression que... Je souhaite tellement pouvoir donner le meilleur dans cet art-là. Je souhaite le faire rayonner tellement de la plus belle façon.
Oui.
Je souhaite être à la hauteur de la haute parfumerie, même française. Et puis, à cet égard-là, j'ai eu la chance de pouvoir faire... certains de mes parfums sont rentrés au Grand Conservatoire international à Versailles.
Oui.
Donc, tout ça, c'est des choses qui m'ont, je dirais, réconfortée, qui m'ont donné de la confiance. Et c'était nécessaire parce que c'est vrai que c'est difficile de faire un art comme ça qui est un
Tout
peu atypique.
Alexandra, merci pour ce moment authentique parce que, justement, vivement les femmes, lorsque on met en lumière des femmes qui réussissent dans des chemins aussi atypiques, c'est de démontrer aussi que c'est pas un parcours facile.
Non.
Ce sont pas des chemins faciles. Alors, pour être une femme inspirante, ben, c'est bien de mentionner aussi les hauts et les bas qu'on puisse avoir. Dans ce choix de carrière qui est premièrement un métier atypique, peu connu, et vous êtes souvent un peu seule dans votre grange. Alors, merci pour ça. J'ai envie de vous demander maintenant, est-ce qu'un parfumeur et un œnologue, est-ce qu'il y a des liens? Alors, l'œnologue qui goûte le vin, qui prend l'odeur, etc. Est-ce qu'il y a des passerelles où c'est complètement
certainement,
différent?
Certainement. Je dirais que l'outil, déjà, de travail étant le nez, je dirais que ce serait ça le plus grand élément en commun.
Oui.
Après, je pense que c'est deux métiers quand même très différents. Pardon, mais... Oui, déjà le fait de que toutes les impressions passent par ce sens-là de l'odorat, c'est quand même un lien fort.
Ah, c'est ça.
Après, je pense qu'il y a plusieurs distinctions
à faire.
Oui, tout à fait.
Ouais. Donc, Alexandra, on arrive au lien que je voulais faire avec les tableaux de votre mère et aussi vous avez fait les Beaux-Arts, c'est ce que vous nous avez dit.
Oui.
Alors voilà, donc en 2019, vous avez été invitée à créer un parfum pour le 500e anniversaire du décès de Léonard de Vinci. Donc, vous vous êtes inspirée de Mona Lisa pour votre création. Donc, racontez-nous là, cette démarche-là, c'est quand même inusité, donc qui vous a conduite en Italie, puis à faire ça avec la, avec Mona Lisa en plus. Expliquez-nous.
Oui. Alors, ça, c'est un beau partenariat qui est renouvelé encore cette année avec Offen Musik, mm-hmm. qui est une académie de musique classique. Et puis, donc, pour le 500e, c'est ça, le directeur artistique m'avait proposé... Ben, alors déjà, cette année-là, il mettait à l'honneur l'Italie. Mm-hmm. Et puis, j'avais un peu carte blanche sur ma façon d'évoquer l'Italie à travers une œuvre. Et puis, j'étais déjà en travail, en recherche sur une évocation de la technique picturale de Léonard de Vinci, qui est le sfumato.
OK.
Donc, c'est quelque chose que j'avais, dans les années précédentes, travailler. J'ai un ami qui est peintre, qui travaille cette technique-là mm-hmm. Dans les cantons de l'Est. Et puis, on est tous deux des amoureux de l'Italie. Puis moi, depuis l'université, j'ai pris des cours d'italien. J'avais voulu faire un...
Ah oui,
ouais, j'avais voulu faire un travail... en tout cas artistique, j'avais proposé quelque chose en Italie. Puis bon, fait que c'est travailler sur le thème des grands maîtres et en particulier Léonard de Vinci, c'est quelque chose qui me parle vraiment, mais mm-hmm. de façon très personnelle. Mm-hmm. Et puis, donc j'avais déjà démarré des esquisses d'un parfum que j'avais appelé Sfumato. Et puis un peu quand j'ai été approchée avec Offen Musik, je me suis dit, ben, tiens, c'est un peu comme ce que je vous disais oui. tout à l'heure. J'ai des parfums comme ça qui sont sur la tablette que je me plais bien à laisser mûrir.
C'est
ou
ça,
je
oui.
me dis, ben, avec les années, j'y reviens. Mm-hmm. Puis on voit comment ça évolue. Puis ce que je peux ajouter ou retravailler. Et puis là, ben, pour Léonard de Vinci, j'avais envie, en fait, de parler de Mona Lisa, mais vraiment de Lisa Gherardini,
oui.
qui est vraiment la femme derrière le portrait. Mm-hmm. Et puis, je me disais, c'est quand même fou que ce tableau-là, des millions de personnes vont voir tous les jours, ou en tout cas, c'est des milliers, sinon des millions, là, tous oui. les jours, ils vont voir ce tableau-là. Mais on parle pas tant de Lisa Gherardini.
Et c'est vrai, en plus. Ouais.
Donc, j'ai souhaité lui rendre hommage, lui donner un souffle, mm-hmm. que le parfum soit un peu son aura. Et donc, dans mes recherches, parce que dans les projets d'exposition, j'aime vraiment faire beaucoup de recherches historiques. Des fois même, je fais appel à des sociétés d'histoire pour m'aider dans mes recherches. Mm-hmm. Alors là, je me suis dit, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'avec tout ce que je lisais, j'épluchais les codex de Léonard de Vinci. Puis à un moment donné, c'était comme pas assez. Mm-hmm. Je continuais d'avoir des questions, puis je voulais tellement que ça soit... J'ai besoin que dans les projets artistiques... Il y a vraiment une recherche pointue au niveau de ce que je peux aller chercher comme information d'archives. Mm-hmm. Donc là, je me suis dit, ben, faut que je me rende en Italie, ça fait pas de sens. Faut que je sois vraiment sur place, puis j'ai besoin d'aller palper le pouls, aller vraiment le ressentir, le sentir moi-même oui. avec mon nez, ce qui se passe là-bas. Mm-hmm. Essayer d'un peu de retracer sa vie. Et puis ça a été, je me suis rendu compte que c'était un peu comme une grande oubliée de l'histoire parce que même dans sa ville natale, on la retrouve pas tant que ça. Et puis, mais ça a été une superbe épopée parce que j'ai été aussi la consul de l'Italie ici à oui. Montréal m'a appuyée dans mes démarches. Donc, j'avais une lettre de sa part pour me rendre en Italie pour aller à... faire mes recherches. Mm-hmm. Donc, en tout cas, ça a été vraiment une belle et grande histoire. Et puis, de ce voyage-là est né aussi un court extrait, un film qu'a réalisé mon conjoint. Donc, un film sur l'art, sur une démarche oui. artistique qui est le parfum. Et puis, ça a été très inspirant d'aller découvrir comme ça... un lieu mythique là, de l'histoire. Puis,
je n'en doute pas. Alexandra, cet été, c'est une installation olfactive que nous pourrons découvrir à Oxford Music. Autrefois, le centre d'art. Alors, je dis toujours Oxford, mais ce n'est pas Oxford, c'est Orford. Alors, décrivez-nous un peu ce qui a inspiré, parce qu'il y a Schubert, etc. Donc...
Oui. Alors, cet été, en fait, c'est dans la rotonde de l'espace Yves Trudeau. En fait, c'est le pavillon Gilles Lefebvre, quand oui. vous allez voir un spectacle. C'est un endroit qui est vraiment à visiter. C'est magique. C'est dans le parc du Mont-Offord. Mm-hmm. Et puis, cette année, donc Wani Song, le directeur artistique général, a choisi de mettre à l'honneur le thème de Schubert.
Oui.
Et puis, c'est mon point de départ. Donc, c'est ce pianiste-compositeur-là autrichien. Et puis, j'ai choisi, en fait, de travailler sur... une pièce qu'il a composée pour... Mm-hmm. C'est une œuvre, si on veut, théâtrale.
Oui.
Et puis, c'est un concert là, en quatre actes qui s'appelle Rosamund.
Mm-hmm.
Et puis, donc, j'aimais beaucoup cette histoire-là. C'est l'histoire d'une princesse de Chypre qui... on essaie de lui enlever sa place légitime au trône.
Okay.
Donc, j'adorais ça parce que on revenait encore sur l'idée d'une femme qui est un peu oubliée. Bref, la pièce théâtrale a été écrite par une poétesse de cette époque-là. Donc, j'ai lu là-dessus, j'ai trouvé ça super inspirant. Et puis, j'ai décidé de réaliser un buste à l'effigie, donc, de la princesse.
OK.
Et puis, elle représente, si on veut, la musique romantique de Schubert. Mm-hmm. Et puis... avec tout la dramaturgie qui va avec, si on veut, la vie de Schubert. Puis, donc, j'ai travaillé un peu un parfum, donc chypré, mais avec une idée de clair-obscur, parce qu'il est dans une période, pas dramatique, mais quand même de sa vie, il se sait mourant, tout mm-hmm. ça. Il a composé cette œuvre-là en 1823, il décède en 1828. Mm-hmm. Donc, il y a une idée de noirceur, mais en même temps, il y a une lumière qui rejaillit. C'est l'histoire aussi de la princesse. Donc, c'est un peu ce parallèle-là que j'essaie de faire avec cette œuvre-là. Puis, j'espère que les festivaliers prendront plaisir à être inspirés par la princesse.
Exactement.
Qui vont les accueillir là,
c'est
à l'entrée.
C'est ça. Puis, en même temps, il y a l'odeur qui nous accueille.
Oui,
nous accueille
parce que
aussi,
son sillage est dégagé, en fait, si on veut, par... parce que c'est une époque où on se parfumait avec les perruques.
C'est vrai.
Bon,
c'est vrai.
Alors, je lui ai fait, si on veut, une espèce de coiffe
avec
des plumes. Et donc, c'est sa coiffe qui est parfumée. Donc, c'était dans l'idée que quand on arrive dans la rotonde, on arrive à distinguer un peu le sillage d'une femme qui rôde, qui est un peu là. Donc, c'est encore là, c'est une espèce d'aura invisible.
D'accord, ça nous donne le goût.
Merci.
Alors, avant de terminer cette émission, je veux quand même vous poser la question, Alexandra. On sait que le COVID a enlevé, pour certains individus, l'odorat.
Hein? Oui.
Alors, si ça vous arrivait, ou si ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas si vous avez eu le COVID, qu'est-ce qui se passe?
Alors, ça ne m'est pas arrivé. Mm-hmm. J'ai vraiment croisé les doigts très fort.
Oui.
C'est sûr que, je dirais, quand on démarre en parfumerie, mm-hmm. si on perd l'odorat de façon permanente,
oui.
c'est un gros problème.
Oui.
Si on est avancé dans avec plusieurs années de carrière, je dirais c'est arrivé à d'autres parfumeurs dans
oui.
l'histoire de la parfumerie. C'est arrivé, puis c'est qu'à un moment donné, ce travail-là, ça devient un travail aussi cérébral. C'est qu'on arrive à connaître nos notes.
Mm-hmm.
C'est un peu comme les grands compositeurs qui ont fini par perdre
oui.
l'audition,
oui.
mais qui ont continué à composer, à écrire.
Mm-hmm.
Donc, je dirais que c'est le parallèle le plus près, le plus approximatif que je pourrais faire, c'est qu'à un moment donné, on arrive à écrire des formules dans notre tête,
oui.
Mais ça, c'est avec l'expérience que tout ça finit par se profiler avec plus d'aisance.
Donc, ça veut dire qu'on peut continuer quand même
on à pourrait être continuer à...
parfumeur. Alors, c'est ce que je voulais entendre, parce que c'est une note positive. Donc, merci Alexandra Bachand d'avoir accepté notre invitation.
Je vous remercie. Ah,
vraiment, j'ai été ravie de vous avoir au micro. Puis, nul doute que pour les auditrices et auditeurs... et moi-même, nous avons beaucoup appris. J'ai encore plein de questions, mais le temps n'est pas approprié pour cela. On doit terminer, malheureusement. Et maintenant, je pourrais dire que j'ai rencontré un nez. Donc, alors, je vais le mentionner. Donc, je rappelle que mon invité est Alexandra Bachand, artiste parfumeur. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche. Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre beau rendez-vous la semaine prochaine.